Nick Dune, le jour où. J'ai attendu la police, d'abord dans la cuisine, mais l'odeur âcre du thé brûlé s'emmagasinait dans le fond de ma gorge, soulignant mon envie de vomir. Aussi suis-je sorti sur le perron. Je me suis assis sur la plus haute marche et me suis efforcé de retrouver mon calme. Je ne cessais d'essayer d'appeler Amy sur son portable, mais je tombais sur sa messagerie, cette cadence hachée avec laquelle elle jurait qu'elle rappellerait. Cela faisait 2 heures, et j'avais laissé 5 messages, et Amy n'avait pas rappelé. Le contraire m'aurait étonné. Je l'avais dit à la police. Amy n'aurait jamais quitté la maison avec la bouilloire sur le feu, ou la porte ouverte, ou un vêtement sur la planche à repasser. Elle allait jusqu'au bout de ce qu'elle entreprenait. Elle n'était pas du genre à abandonner un projet, même si elle décidait qu'il ne l'intéressait plus. Les travaux de réfection sur son mari, par exemple. Elle a fait une tête sinistre sur la plage de Fidji, pendant les 2 semaines de notre lune de miel, à s'escrimer sur le million de pages mystiques des chroniques de l'oiseau à ressort, et me lançait des coups d'œil assassins, tandis que je dévorais des thrillers l'un après l'autre. Depuis notre retour dans le Missouri et la perte de son boulot, sa vie s'articulait, se désarticulait, autour de l'accomplissement d'innombrables projets minuscules, sans importance. La robe aurait été repassée. Et il y avait le salon, des signes indiquant une lutte. Je savais déjà qu'Amy n'allait pas rappeler. Je voulais que commence l'épisode suivant. C'était le meilleur moment de la journée. Le ciel de juillet était déjà mauve. Le soleil déclinant braquait un phare vers l'est, rendant toute chose dorée et chatoyante, comme une peinture flamande. La police a débarqué. La scène semblait ordinaire. Moi, assis sur les marches, un oiseau du soir qui chantait dans l'arbre, ces 2 flics qui sont sortis de leur voiture sans hâte, comme s'ils faisaient un saut à un pique-nique de quartier. Des bébés flics, autour de 25 ans. Sûrs d'eux et sans imagination, habitués à réconforter les parents qui s'inquiétaient pour leurs ados en rupture de couvre-feu. Une hispano-américaine, les cheveux rassemblés en une longue tresse brune, et un noir qui se tenait comme un marine. Carthage était devenu un peu, un tout petit peu, moins blanc pendant mon absence. Mais la ségrégation rampante faisait encore tellement loi que les seules personnes de couleur que je voyais dans mon quotidien étaient en général des vagabonds professionnels. Livreurs, VRP, facteurs, flics. Cette ville est tellement blanche que c'est perturbant, avait dit Amy, qui, lorsqu'elle vivait dans le melting pot de Manhattan, ne comptait qu'un unique afro-américain parmi ses amis. Je l'avais accusé de regretter l'ethnique de façade, la toile de fond inoffensive des minorités. Ça ne s'était pas bien terminé. « Monsieur Dune, je suis l'agent Velasquez, » a dit la femme. « Et voici l'agent Riordan. Vous vous inquiétez pour votre femme, à ce que nous comprenons. » Riordan a regardé le bout de la rue, sussotant un bonbon. J'ai vu ses yeux suivre un oiseau qui filait au-dessus du fleuve. Puis il les a brusquement tournés vers moi. Ses lèvres retroussées me disaient qu'il voyait ce que voyaient tous les autres. J'ai une tête à claque. Je suis un petit Irlandais de la classe ouvrière, piégé dans le corps d'un connard fini né avec une cuillère en argent dans le bec. Je souris beaucoup pour compenser, mais ça ne marche pas à tous les coups. À la fac, j'ai même porté des lunettes pendant un certain temps. Des fausses lunettes avec des verres neutres dont j'espérais qu'elles me donneraient un aspect affable, non menaçant. « Tu réalises que ça te donne l'air encore plus con, pas vrai ?» avait observé Go. Je les ai jetées et j'ai encore forcé sur le sourire. « Venez voir à l'intérieur. » Ils sont montés, accompagnés par le bruit de crissement et de frottement de leurs ceinturons et de leurs revolvers. Je me suis arrêté à l'entrée du salon et je leur ai fait constater les dégâts. « Oh !» a fait l'agent Riordan. Il a fait craquer ses jointures d'un coup sec. Soudain, il avait l'air moins écœuré. Installé à la table de la salle à manger, Riordan et Velasquez se sont penchés en avant sur leur siège pour me poser les questions préliminaires. Qui ? Où ? Combien de temps ? Ils avaient littéralement les oreilles dressées. Ils avaient passé un appel à l'écart et Riordan m'a informé qu'on dispatchait des inspecteurs. J'avais le grave privilège d'être pris au sérieux. Riordan me demandait pour la seconde fois si j'avais remarqué des inconnus dans le quartier ces derniers temps, me rappelait pour la troisième fois la présence de bandes de SDF à Carthage, lorsque le téléphone a sonné. Je me suis précipité à l'autre bout de la pièce et j'ai décroché au milieu de la première sonnerie. Une voix de femme revêche.
« Monsieur Dune, ici la résidence médicalisée de Comfort Hill. »
C'est là que nous avions mis notre père, malade d'Alzheimer. « Je ne peux pas parler pour l'instant, je vous rappellerai. » ai-je répondu sèchement. J'ai raccroché. Je méprisais les femmes qui composaient le staff de Comfort Hill. Elles n'étaient pas souriantes, pas rassurantes. Elles étaient sous-payées, elles faisaient un travail éreintant et elles étaient sous-payées. C'est sans doute pour cela qu'elles ne souriaient ni ne rassuraient jamais. Je savais que ma colère à leur égard était mal dirigée. Cela me mettait absolument hors de moi que mon père tienne le coup, tandis que ma mère était 6 pieds sous terre. C'était le tour de Go d'envoyer le chèque. J'étais à peu près certain que Juillet, c'était son tour. Et je suis sûr qu'elle était persuadée que c'était le mien. C'était déjà arrivé. Go disait que nous devions oublier mutuellement, de façon subconsciente, de poster ses chèques. Que ce que nous voulions oublier, en fait, c'était notre père. Je parlais à Riordan de l'inconnu que j'avais aperçu dans la maison désertée de notre voisine lorsqu'on a sonné à la porte. On a sonné à la porte. Ça semblait tellement normal. Comme si j'attendais une pizza. Les deux inspecteurs sont entrés avec la fatigue de la fin de service. L'homme était mince et élancé, avec un visage qui se terminait en pointe sur un menton étroit. La femme était d'une laideur surprenante, insolente, au-delà de l'éventail de la laideur ordinaire. De minuscules yeux ronds, rapprochés comme des boutons, un long nez tordu, la peau constellée de petites bosses, de longs cheveux ternes couleur poussière. J'ai un penchant pour les femmes laides. J'ai été élevé par un trio de femmes au physique ingrat. Ma grand-mère, ma mère, sa sœur. Et elles étaient toutes intelligentes, gentilles, drôles et robustes. Des femmes admirables, à vrai dire. Amy était la première jolie fille avec laquelle j'ai eu une vraie relation. La femme laide a parlé la première. Écho de mademoiselle l'agent Velasquez. Monsieur Dune, je suis l'inspecteur Rhonda Bonney. Voici mon équipier, l'inspecteur Jim Gilpin. Il semblerait donc qu'il y ait un souci concernant votre femme. Mon estomac a gargouillé assez fort pour que tout le monde l'entende. Mais nous avons fait comme si de rien n'était. On peut faire le tour du propriétaire, monsieur, a dit Gilpin. Il avait d'épaisses poches sous les yeux et des poils blancs râpeux dans la moustache. Sa chemise n'était pas froissée, mais il la portait comme si elle l'était. Il avait l'air de sentir la cigarette et le café rance, alors même que ce n'était pas le cas. Il sentait le savon Dial. Je les ai guidés sur les quelques pas qui nous séparaient du salon. J'ai une fois de plus désigné le saccage, où les deux flics plus jeunes se tenaient prudemment à quatre pattes, comme s'ils cherchaient à se faire surprendre en train de se rendre utile. Bonnie m'a entraîné vers une chaise dans la salle à manger, à l'écart, mais en vue des signes d'une lutte. Rhonda Bonnie m'a fait reprendre les mêmes informations de base que j'avais données à Velasquez et Riordan. Ses yeux de moineau attentif fixés sur moi. Gilpin, accroupi sur une jambe, examinait le salon. « Est-ce que vous avez appelé des amis, de la famille ou des gens avec qui votre femme serait susceptible de se trouver ?» a demandé l'inspecteur Rhonda Bonnie. « Non, pas encore. Je vous attendais, je pense. »«
Ah !» elle a souri. « Laissez-moi deviner. Le bébé de la famille. »«
Quoi ?
C'est vous, le bébé. »«
J'ai une sœur jumelle. » J'ai senti qu'elle procédait à une sorte de jugement interne. « Pourquoi ?» Le vase préféré d'Amy gisait sur le sol, intact, en équilibre contre le mur. C'était un cadeau de mariage, un chef-d'œuvre japonais qu'Amy remisait chaque semaine quand venait notre femme de ménage, parce qu'elle était persuadée qu'elle allait le casser. Simple supposition de ma part. Si vous nous avez attendu, c'est parce que vous avez l'habitude que quelqu'un d'autre prenne les initiatives, a dit Bonnie. Mon petit frère est comme ça. Ça dépend de l'ordre de naissance.
Bonnie a griffonné quelques mots sur un bloc-notes.
Bon. J'ai haussé les épaules, courroucé. Vous voulez mon signe astrologique aussi, ou on peut commencer ?
Bonnie m'a souri aimablement. Elle attendait.
Si j'ai attendu pour faire quelque chose, c'est parce que franchement, c'est évident qu'elle n'est pas avec une copine, ai-je dit, indiquant le désordre du salon.
Vous vivez ici depuis quoi, Monsieur Dune? 2 ans?
2 ans.
Vous étiez où avant?
New York.
La ville ou l'État?
La ville. Elle a désigné l'étage, demandant la permission sans demander vraiment. J'ai hoché la tête et lui ai emboîté le pas, suivi de Gilpin.
J'étais écrivain là-bas,
ai-je lâché sans avoir le temps de me retenir. Même à présent, après 2 ans ici, je ne pouvais pas supporter que quelqu'un pense que c'était ma seule vie.
Bonnie.
Impressionnant, Gilpin.
Vous écriviez quoi?
J'ai calé ma réponse sur mon pas dans l'escalier. J'écrivais pour un magazine, une marche. J'écrivais sur la culture pop, une marche. Pour un magazine masculin, une marche. Presque arrivé en haut, je me suis retourné. Gilpin était toujours en bas, les yeux fixés sur le salon. Il a réagi en sursaut.
« La culture pop ? » a-t-il lancé en montant les marches. « Qu'est-ce que ça comprend exactement ?»«
La culture populaire. » Nous avons rejoint Bonnie qui nous attendait en haut. Le cinéma, la télé, la musique, mais vous savez, pas l'art avec un grand A, rien d'amphigourique.
J'ai sursauté. Amphigourique.
Quelle condescendance. Vous autres péquenauds, vous avez sans doute besoin que je vous traduise mon anglais, version universitaire côte Est, en anglais version petit peuple du Midwest.
Je gribouille, c'est ce qui me passe dans le ciboulot après avoir maté des bons films de cinéma.
Elle adore le cinéma, a dit Gilpin en me désignant Bonnie. Bonnie a hoché la tête. C'est vrai.
Maintenant, je suis le patron du bar en ville. Bonnie jetait un coup d'œil dans la salle de bain, ce qui nous a forcés à nous arrêter dans le couloir, Gilpin et moi.
« Ah oui, »
a-t-elle dit.
« Je connais, je voulais y passer. J'adore le nom. Super Meta. »«
Ça me paraît être une bonne initiative, » a dit Gilpin. Bonnie s'est dirigée vers la chambre et nous l'avons suivie.
Une vie entourée de bière, on peut imaginer pire.
Parfois, la réponse est au fond de la bouteille, j'ai dit. Puis j'ai de nouveau sursauté en réalisant le caractère déplacé de ma remarque. Nous sommes entrés dans la chambre. Gilpin a rigolé.
« Ouais, je connais ça !»«
Le fer est toujours branché, vous avez vu ?» J'ai commencé. Bonnie a hoché la tête, ouvert la porte de notre spacieux placard et elle est entrée dedans. Elle a allumé et promené ses mains gantées de latex sur les chemises et les robes en progressant vers le fond. Soudain, elle a lâché un petit cri, s'est penchée, retournée. Elle tenait une boîte parfaitement cubique, emballée dans un papier argenté recherché. Mon estomac s'est figé.
« C'est l'anniversaire de quelqu'un ?»«
Notre anniversaire de mariage. » Bonnie et Gilpin se sont mis tous deux à s'agiter comme des puces en essayant de le masquer. Lorsque nous sommes retournés au salon, les jeunes agents étaient partis. Gilpin s'est mis à genoux pour examiner l'ottomane renversé.
Je suis un peu chamboulé, évidemment, j'ai commencé.
C'est tout à fait normal, Nick, a dit Gilpin d'un ton sincère. Ses yeux bleu pâle frétillaient dans leur orbite. C'était un tic déstabilisant.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour retrouver ma femme? Parce que bon, c'est clair qu'elle n'est pas là.
Bonnie a montré du doigt le portrait de mariage au mur. Moi, en smock, un bloc de dents figé sur mon visage, entourant cérémonieusement la taille d'Amy de mes bras. Amy, ses cheveux blonds, étroitement torsadés et laqués, son voile flottant dans la brise maritime du Cap Cod, les yeux trop grands ouverts parce qu'elle clignait toujours des paupières à la dernière minute et qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas cligner des paupières. Le lendemain de la fête nationale, le soufre des feux d'artifice se mêlait au sel de l'océan. L'été. Le cap nous avait réussi. Je me rappelle l'avoir découvert, au bout de quelques mois, qu'Amy, ma copine, l'enfant unique, adoré, de génie créatif, était aussi très riche. Une espèce d'icône, grâce à une série de livres pour enfants qui portaient son nom, dont il me semblait garder un vague souvenir. L'épatante Amy. Amy m'a expliqué cela d'une voix calme et mesurée, comme si j'étais un patient qui se réveillait d'un coma. Comme s'il l'avait déjà fait trop souvent et que ça s'était mal passé. Un aveu de richesse reçu avec trop d'enthousiasme. La révélation d'une identité secrète qu'elle n'avait pas créée elle-même. Amy m'a dit qui elle était et ce qu'elle était, puis nous nous sommes rendus dans la demeure classée monument historique des Elliott sur le littoral de Nantucket. Nous sommes allés faire du bateau ensemble et je me suis dit « Je suis un garçon du Missouri en train de traverser l'océan avec des gens qui en ont vu beaucoup plus que moi. Même si je me mettais à voir des choses maintenant, à vivre la grande vie, je ne pourrais jamais les rattraper. » Cela n'a pas suscité de jalousie chez moi. Ça a provoqué de la satisfaction. Je n'ai jamais aspiré à la richesse ou à la célébrité. Je n'ai pas été élevé par des ambitieux qui rêvaient de voir leur fils devenir président des États-Unis. J'ai été élevé par des parents pragmatiques qui voyaient leur fils travailler dans un bureau quelconque, gagner sa vie d'une manière ou d'une autre. Pour moi, il était suffisamment grisant d'être à proximité des Elliott, de glisser sur l'Atlantique et de rentrer dans une demeure somptueusement restaurée, construite en 1822 par le capitaine d'un baleinier, et là, de préparer et de manger des repas de nourriture bio, saine, dont je ne savais pas prononcer le nom. Du quinoa. Je me rappelle avoir cru que le quinoa était une variété de poisson. Et nous nous sommes mariés sur la plage, un mardi de grand ciel bleu. Nous avons mangé et bu sous une tente blanche qui se gonflait comme une voile, et au bout de quelques heures, j'ai subrepticement entraîné Amy dehors, dans la pénombre, vers les vagues, parce que je me sentais complètement irréel. J'étais persuadé de m'être transformé en pur reflet. La brume fraîche sur ma peau m'a rattrapé, Amy m'a rattrapé, et ramené vers la lueur dorée de la tente, où les dieux festoyaient, où tout n'était qu'ambroisie. Toute la période qui a précédé notre mariage a été à l'image de ce moment. « Votre femme est très jolie, » a observé Bonnie. « Elle est belle, » j'ai dit, et j'ai eu un haut-le-cœur. « C'est quel anniversaire aujourd'hui ?»« 5 ans de mariage. » Je dansais nerveusement d'un pied sur l'autre, impatient de faire quelque chose. Je ne voulais pas qu'il reste planté à discuter de la beauté de ma femme. Je voulais qu'ils sortent de là et qu'ils aillent la chercher, ma femme, putain. Je ne l'ai pas dit tout haut, cependant. Souvent, je ne dis pas les choses tout haut, même quand je le devrais. Je garde tout. Je compartimente à un degré perturbant. Dans la cave que j'ai dans le ventre, il y a des centaines de bouteilles de rage, de désespoir, de peur. Mais on ne s'en douterait jamais en me voyant. 5 ans, c'est un chiffre important. « Laissez-moi deviner, réservation aux Stones ?» a demandé Gilpin. C'était le seul restaurant classe de la ville. « Faut absolument que vous essayiez le Stones !» avait dit ma mère lorsque nous étions revenus au pays, pensant que c'était l'unique petit secret de Carthage, espérant faire plaisir à ma femme. Bien sûr, c'était mon 7e mensonge à la police, et je ne faisais que commencer.